je vois le sacrifice, tout le monde s'est sacrifié. J'ai été le, en fait, parce que mes grands frères et sœurs étaient déjà grands,
ouais.
Et j'ai reçu de l'aide de tout le monde, de l'aide et de l'amour.
Ok.
Et donc moi, mon moteur, c'était de rendre fière ma famille.
Oyez la popu, bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit.
Ici, Mohamed nous partage avec beaucoup de confiance pas mal d'anecdotes sur ce qu'il a construit en tant qu'homme, issu de banlieue, notamment de Toulouse, mais aussi en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, il commence très très jeune l'entrepreneuriat à travers diverses activités, certaines plus insolites que d'autres. On parle de son rapport à l'échec, notamment lié aux études, sa confrontation au racisme, mais aussi comment il entre en radio. J'en dis pas plus, et ça, c'est que la partie 1.
T'as écouté quelques épisodes et tu sais qu'il y a une question phare que je pose au début.
Ouais.
C'est comment va ton cœur ?
Moi, j'ai pas de cœur.
T'as pas de cœur ? Tu l'as préparé, celle-là.
Non, mais c'est vrai que je m'attendais à cette question. J'ai dit, putain, qu'est-ce que je vais répondre ? Parce que, en fait, l'état de ton cœur, ça change à tous les moments. Et c'est vrai que je me pose pas souvent la question.
Ouais.
Comment va son cœur ? C'est franchement...
C'est une vraie question.
C'est une vraie question. Une vraie question. Bah écoute, mon cœur, il est en béton armé aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Il est généreux et il englobe les autres.
Deuxième question, est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse à travers ton quartier ?
Alors, le quartier, tu vois, c'est... Moi, c'est une histoire de fuite.
Ouais.
Tu vois ? Le quartier, cette question-là, je l'attendais aussi. Le quartier, c'est pas un endroit où j'ai envie de retourner.
Ouais.
Mon quartier, ma jeunesse, alors que des bêtes de souvenirs, tu vois, l'insouciance, grave l'insouciance.
Ouais.
Le plus beau quartier du monde.
Mais c'est où ?
À Toulouse, voilà. Et dans une cité qui s'appelle la Cité de la Gloire.
Ok.
Moi, je trouvais ça trop drôle parce que c'est pas d'être dans un endroit où tu, c'est Cité de la Gloire, et tu peux l'écrire autrement.
Ouais.
Ouais. Si t'es apostrophe ES de la gloire.
Ok.
Voilà, ça. Et en fait, je me suis dit un jour, si tu vois, je fais un truc légendaire, je crois que ce sera le nom du bouquin que je vais écrire.
Ok.
Cité de la gloire, point d'interrogation.
T'as déjà prévu d'écrire un bouquin déjà ?
Non, je sais pas, parce qu'il m'arrive tellement des trucs de ouf.
Ouais.
Franchement, tu vois, d'où on part.
Ouais.
Les outils qu'on a au début, et puis j'ai encore plus conscience de où je viens et les trucs que j'ai passés, les trucs de ouf qui m'arrivent, et ouais, et je me dis c'est pas réel parce que ouais, j'ai l'impression d'être un rescapé, tu vois.
Ouais, t'as l'impression d'être dans la matrice.
Ouais, je sais pas, ouais, Neo, tu vois, je me suis réveillé.
Ouais. T'as pris la pilule rouge.
La pilule rouge, ouais. En fait, moi, je suis plus Morpheus, tu vois.
Ah ouais?
Ouais. C'est mon préf.
Ok. Après, attention, Morpheus, il a un vrai charisme. Il est conscient, il est préparé. C'est un peu comme ça que tu te sens. T'es préparé depuis longtemps.
Ouais. Tu vois, genre, mes potes, ils me disent, tu sais, moi, je suis toujours en train de prévoir des trucs. Et ça se passe toujours comme j'ai dit. Que ce soit dans le business ou dans la vie, tu vois. J'ai l'impression d'être éveillé, lucide.
Ok, intéressant. Oui. Mais justement, quand t'es jeune, à la Cité de la Gloire, quelqu'un qui est jeune et qui est déjà éveillé, lucide,
ouais.
Ça se passe comment ?
Tu vois, le truc... Déjà, nous, on était vraiment les pauvres des plus pauvres.
Okay.
Tu vois,
il y a
une hiérarchie déjà dans la cité, tu vois.
Ouais.
Il y a les familles, il y a celles qui partent au bled avec le plus de voitures, tu vois.
Tous les ans.
Et voilà. Donc, tu fais 2 mois et ils reviennent, c'est la galère. Et nous, bah, nous, on n'avait pas les moyens de partir au bled.
Ouais.
On n'avait pas, en fait, ma mère, elle nous a élevés toute seule.
Ok.
Tu vois, les darons, ils ont démissionné. Il y a des familles, voilà, les darons, ils démissionnent. Bah, pas de darons. T'as pas de grand frère. Si, j'avais un grand frère, mais lui aussi, il s'est émancipé.
Ouais. Et comment il grandit, Mohamed, quand il est petit, il vit qu'avec sa mère?
Déjà, je suis avec ma mère, mes grands frères et sœurs, on est 8 dans 60 mètres carrés.
Ok. Ouais, le contexte, il est posé déjà.
Et donc, j'ai une mère qui me... je sais pas. Ma mère, je pense qu'elle a eu du génie, tu vois. Elle connaît tous ses enfants. Et donc, à chacun, elle a donné les outils ou l'accompagnement qu'il fallait. Et j'ai l'impression que ma mère a détecté que j'étais intelligent et qu'il fallait me donner toutes les chances.
Ok.
Et du coup, c'est injuste par rapport à mes frères et sœurs parce que elle était toujours... Momo, c'est l'espoir de la famille. Et en fait, Momo, c'est l'espoir de la famille.
Ok. D'accord.
Tu vois, c'est, j'ai grandi dans ce truc-là.
Donc, ça te met une pression aussi.
Ouais. En plus, quand j'ai eu 9 ans, j'ai eu mon grand frère, qui est aussi ma figure paternelle, qui est décédé. C'est lui qui m'a quasiment élevé.
Ok.
Voilà. Il est mort à l'âge de 28 ans. Le lendemain, le jour de son anniversaire, le lendemain de la fête de la musique. Et lui, il était musicien, il faisait de la musique avec ses copains. Ils sont tous partis. Et lui, il voulait, tu vois, être intégré. Donc, il a fait l'armée, parce qu'à l'époque, il y avait les services militaires. Mmh. Il est resté un petit peu. Et à la sortie, il voulait intégrer, faire les concours de gardien de la paix. Et quand il est parti, c'est moi qui suis devenu l'homme de la maison.
Ah, j'imagine que tu as dû voir des choses qui t'ont révolté depuis ton plus jeune âge.
De ouf. Les, ouais. Contrôles, les contrôles à la cité, les contrôles... les intimidations. Une fois, j'étais sorti en soirée. Moi, je crois le pire moment, c'était on attendait le bus, tu sais, devant la gare à 6h du matin. Mmh. Tu sais, on avait fait la fête avec les copains, on était là, on attendait le bus parce que nous, on était à pied. Okay, ouais, okay. Quand t'es en province, t'es pauvre quand t'es à pied. Quand t'as pas de voiture.
Y a pas de permis à 18 ans.
Y a pas de permis. Non. Franchement, le permis, ça vaut le bac. Ouais. Et du coup, je sais pas, j'attends le bus. Et là, gros coup de matraque dans le ventre, menotté, moi à mon pote. Ils nous font traverser la gare, menotté, la honte de ma vie, comme des pauvres. Franchement, j'étais là, j'ai la honte de ma vie. J'ai dit, ma mère, si elle me voit là, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, on me dit rien.
Comme ça, direct,
ouais, ferme ta gueule, bonjour, allez, okay. Non, du tout. Et en fait, c'était la ferroviaire.
Ah.
Et du coup, il nous attrape, il nous amène devant deux nanas, en fait, qui s'étaient fait voler leur sac. On a, je crois, de la vingtaine, tu vois, 26, 30 ans. Et du coup, moi, je me souviens de cette phrase-là, mais je te jure, je la vois encore aujourd'hui, et puis je vois ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que, tu vois, va falloir mailler un petit peu,
ouais.
et être prêt à partir, tu vois.
Okay.
Quand nos parents sont partis, ils ont quitté leur pays, ils ont été courageux. Nous, on peut aussi le faire.
Donc là, c'est un deuxième déclic.
Ouais, là, j'ai un déclic et je me dis, tiens, là, on se fait... Donc les nanas, elles disent, non, c'est pas lui. Et il y en a un qui lui ressemble un peu à lui, il est grand comme ça. Et le flic a dit, ah, mais c'est presque lui, on l'embarque. C'est presque lui. Et du coup, le mec essaie de retourner la meuf. Vous êtes sûr et tout, machin et tout. Parce que eux, ils voulaient closer le deal.
Ouais.
Et voilà. Et la nana a dit non, je suis formel, c'est pas lui et tout. Et après, il nous éjecte. Et ni désolé, ni.
Il n'y a rien du tout.
Rien du tout. Cassez-vous.
Ouais.
Et c'est à cette période-là où, tu vois, j'ai un éveil un peu à la politique. Tu vois, je vois, je conscience que c'est un spectacle, tu vois, qu'il n'y a rien qui changera. Et voilà. Et j'aimais bien à l'époque écouter des artistes qu'on n'entend pas aujourd'hui, tu vois, genre, moi j'écoutais bien, j'aimais bien Zebda.
Ouais.
Je suis assez fan de Majid Cherfi.
Ok.
Et il y a une chanson là qu'il a écrite, s'appelle Place de France. Mm-hmm. J'ai fait écouter à mon fils, tu vois, il aime bien en plus. Et même mon fils a compris le sens de la chanson. Okay. Ouais, il a 4 ans. Et du coup, il me dit, ouais, pourquoi le monsieur, il court parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas.
Donc, il a déjà conscientisé ce truc-là.
Il l'a conscientisé. Mais du coup, tu vois, le truc, c'est que bah, je pense que moi je suis déçu, tu vois, genre mon frère qui était un mec super intelligent, des fois je me remets en question et je me dis putain, il a voulu aller bosser avec dans un endroit où bah t'as tous les racistes du monde. En fait, c'est vrai, c'est lui en vrai le plus courageux, tu vois. C'est lui qui s'est dit je vais changer ça de l'intérieur. Ou... Mais je pense que c'est vrai, faut qu'on s'engage, faut qu'on aille dans des endroits où peut-être on n'a pas envie d'aller et tout. Moi aussi quelque part j'ai voulu aussi rentrer dans les ordres quelque part.
Ouais.
Quand plus tard j'ai été infirmier, parce que beaucoup de gens me connaissent comme growth marketer, mais ouais. Voilà, j'étais infirmier syndiqué à la CGT.
Ah, syndiqué en plus. Ouais. Ah, oui.
Non, moi j'étais.
Donc elle est due à ça aussi, cette envie de, alors je vais pas dire de combattre, mais d'être je sais pas, peut-être une forme de rébellion.
Ouais, alors je dis pas rébellion, tu vois. En fait, je pense que le mot qui me qualifie le mieux, c'est la désinvolture.
OK.
Tu vois, la désinvolture et parce que la rébellion, ça, je pense pas que ça mène quelque part, mais tu vois, faut ramener les gens à leur en miroir. Ouais. La désinvolture, pour moi, c'est ça, à leur propre bêtise.
Okay.
Et en vrai, tu sais, je me fais toujours l'avocat du diable, je vais défendre toujours des opinions, même que je soutiens pas, mais juste pour prouver que, en fait, le vrai secret, c'est la neutralité.
Okay.
Et du coup, moi, je me considère comme quelqu'un de très très neutre, mais dès que on va m'opposer un truc avec un propos qui est absurde, je vais répondre par l'absurde, mais à la même force et de façon opposée. Donc déjà, dans le travail, c'est très compliqué. Ouais. De bosser avec moi. Ouais. Mais parce que je pense que au final, personne n'a raison et personne n'a tort.
Oui.
Juste chacun possède, tu vois, sa part de vérité, tu vois. Et pour moi, tu vois, genre, c'est la vérité, c'est comme un miroir. Ouais, chacun possède son petit morceau.
Bien sûr.
Et du coup, je sais pas pourquoi je fais cette digression, mais enfin, on va expliquer. Mais je sais pas, la question, c'était comment je le vivais quand j'étais petit. Je l'ai vécu d'abord dans une insouciance incroyable. C'était puis après la déflagration, la violence à l'adolescence, parce que mes potes du quartier, ben en fait on s'est écarté du truc. Ma mère, elle m'a interdit de sortir de la maison. Elle voulait pas que je traîne au quartier. Et elle m'a inscrit dans le privé catholique.
Okay.
Elle m'a extrait. Et en fait, je vois le sacrifice. Tout le monde s'est sacrifié. J'ai été le, en fait, parce que mes grands frères et sœurs, ils étaient déjà grands.
Ouais.
Et j'ai reçu de l'aide de tout le monde. De l'aide et de l'amour.
Ok.
Et donc, moi, mon moteur, c'était de rendre fier ma famille.
Ok. Mais j'ai l'impression que dans ton environnement, tu reçois de l'aide et de l'amour, en tout cas des proches. Mais quand tu sors de chez toi, tu, c'est que de la violence.
Ah ouais, c'est de la violence. Moi, je suis en guerre depuis toujours. Tu vois, le truc qui en fait, tu vois, il y a la cité qui était, c'était chaud. Même, tu vois, genre, des fois, tu vois, genre, moi, après, j'avais des potes à l'extérieur de la cité. Donc, en fait, c'est comme ça. En fait, le truc, c'est si tu restes dans la cité, avec les mecs de la cité, qui vont dans les mêmes écoles, avec les plus mauvais, tu rentres dans le truc, là, tu rentres dans la machine à résignation. Par contre, moi, le truc qui m'a sauvé, bah, ma mère, elle m'a mis dans une école, il y avait que des bourges. Du coup, t'étais dans. En plus, ma mère, elle voulait pas. Genre un truc de ouf. Elle voulait pas que je me sente diminué, même vestimentairement parlant, de tout, des gens avec qui je suis à l'école. Genre que je sois discriminé. Donc toutes les rentrées. Ok, j'avais le dernier bête de survêt et la paire de chaussures, mais je la gardais toute l'année. Ouais. Tu vois, et après il y avait l'Aïd qui jouait les prolongations.
Ouais. Je vois très très bien ce que
tu vois, et les chaussures, fallait faire gaffe.
Hein. Ouais, tu pouvais pas jouer au foot avec.
Non. Tu vois, et quand je vois les mecs courir dans la boue, les traîner les pieds, franchement,
tu réfléchis à deux fois,
je dis mais ils sont ouf. Non, mais du coup, tu vois, du coup, après, c'est là aussi où, tu vois, genre, j'ai appris un peu le business, tu vois. Parce que c'est là où je revendais des trucs tout le temps à l'école. Et en fait, à la fin, à partir d'un moment, c'est moi qui ramenais de l'argent à la maison. Parce que, bah, typiquement, tu vois, genre, mais après, je peux pas être fier. Mais du coup, je le dis.
Il y a prescription, il y a plus de 10 ans.
Il y a prescription. Tu sais, j'avais trouvé une grosse malle dans la cave avec que des bouquins de cul, des cassettes, des machins.
Ok, d'accord.
Et du coup, bah, je vendais ça au mec. Tu sais, genre 20 francs. Tu sais, il y avait la pièce de 20 francs. 20 ouais. francs, 50 francs. Et tu vois, il n'y a pas une journée où je rentrais pas avec 80, 100 francs en poche.
Et tu t'es jamais fait griller?
Jamais. Bah, comment, tu vois, les mecs, ils assument, hein.
Tu vois. Non, mais je veux dire, tu sais, je sais pas, vu que tu vendais ça à l'école.
Ouais. Et du coup, il y a que les cassettes vidéo qui fonctionnaient pas, parce que les mecs se les prêtaient. Par contre, les bouquins, bah, pas, j'ai été collé, donc ils prêtaient pas. Donc, du coup, il y avait du repeat business. Et, après, tu vois, il y avait les Tamagotchi.
Ouais.
Il y avait les puces de PlayStation 1.
Ah oui, les cartes mémoire là.
Non. En fait, tu avais la PlayStation 1 et après tu pouvais le truc c'est que ma mère elle m'a offert un graveur.
Ah.
Enfin ouais. un ordinateur, mais j'ai eu genre mon premier ordinateur c'est 98. Et tu avais le graveur 8X, il fallait attendre presque 2 heures pour graver un jeu de PlayStation et tout. Donc en fait, il y avait déjà cette histoire là de la PlayStation, tu l'as amené dans un magasin, le mec il te mettait une puce qui te permettait de lire les jeux gravés. Et du coup, ben je faisais payer pour la puce, je prenais un fee et derrière je gravais des jeux et je les revendais. Donc j'allais, tu vois, genre je me faisais ramener au pas de la case des tours de CD et je passais ma vie à graver. Puis après c'était ça s'est apaisé avec les mecs. Non, pas les Divix, il y avait pas encore de super connexion à cette époque-là. Et par contre, tu vois, le truc qui était bien, c'était apaisé avec les mecs du quartier, parce que, en fait, quand tu te mélanges pas, les mecs, ils comprennent pas.
Ouais.
Donc, c'était toujours chaud. Moi, j'étais toujours en fight. Tu te mélanges pas, ça veut dire que tu te sens mieux au-dessus, alors que pas du tout. Mais, et du coup, bah voilà, c'était apaisé un petit peu parce que, je revendais des CD de rap. Donc, je passais ma vie à graver des CD de rap. Secteur A, Stomy Bugsy, Doc Gynéco. Et du coup, à l'époque, tu pouvais aller à la Fnac, prendre le CD, le graver, le ramener demain, te faire rembourser. Après, la Fnac, ils ont capté le coup et ils ont dit, bon, c'est bon, on rembourse plus les CD.
Ouais,
parce que les gens gravaient chez eux. Et puis,
bah oui, tu m'en remets trois chez toi.
Mais bon, tu sais, c'est l'avantage, tu vois, de, en fait, ça a toujours été mon côté, à cœur, tu vois. Genre, ce qui crée la valeur, c'est la distorsion de l'information. Ouais. Et les gens, quand ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas comment faire. Et après, tu sais, comme mon ordinateur, il avait toujours, tu sais, fallait le faire évoluer. Donc, fallait changer le graveur, tu sais, fallait changer le processeur, fallait changer la carte. Donc, du coup, tu sais, j'ai mis les mains dans le cambouis. Enfin, changer, tu sais, quand ton système d'exploitation était mort, fallait formater, réinstaller, etc. Réinstaller les drivers et tout. Et là, j'avais trouvé un petit, pareil. Comme mes potes, ils avaient leurs parents et qui avaient leur ordinateur qui marchait pas, ben je prenais des petits billets pour aller réparer les ordinateurs des parents des copains. Donc il y a toujours un truc où je voulais entreprendre.
On avance dans le temps, après de multiples péripéties, Mohamed quitte l'école et s'inscrit au CNED en 2005 pour passer son bac. Mais il ne va pas au bout. Il se remet en question pour se lancer dans une discipline qui lui plaît. Je vous laisse découvrir.
Et du coup, voilà, et je m'inscris au CNED. On est en 2005 et là je t'as les manifestations CPE, tu vois, cette année.
Ouais, ouais.
Et donc moi je fais le CNED à distance et il y a pas terminal S STL. Donc je fais terminal S et voilà. Donc du coup, en plus j'avais des bons résultats, il y avait bac français histoire, j'avais déjà passé avec en STL et du coup c'était plutôt bien passé et voilà. Donc du coup, je me retrouve en terminal S. Et là, je découvre que je suis. C'est la première fois de ma vie que je travaille, que j'ouvre un livre de moi-même.
Ouais.
De, tu vois ça. Je fais la démarche d'aller ouvrir un livre.
Que tu révises,
que je révise. Et ouais. Et donc du coup, j'ai fait 30% du programme tout seul.
Ok.
En vrai, si je m'étais présenté, je pense que je l'aurais eu le bac. Mais à un moment, j'ai dit, bah t'as fait 30%. Bah, faut être lucide. Tu t'auras pas le bac. Cherche une autre option. Et du coup, je me retrouve avec un niveau bac, mais pas le diplôme du bac, que j'ai jamais eu finalement.
Okay. ça t'a pas empêché de bien vivre.
Et là, je me dis, bon, ben, en fait, qu'est-ce que t'aimes? Et qu'est-ce que tu veux faire? c'est quoi ton, le truc où t'es doué? Et donc, bah, je mixais des soirées. Et je dis, c'est quoi le endgame? Et le endgame, pour moi, c'était l'endroit où je voulais bosser. C'était MTV et Radio FG.
Ok.
Et j'y ai bossé.
Ok. Tout de suite après?
Non, non. Ça s'est pas passé comme ça. Et alors, je trouve une, et du coup, je trouve une formation. Tu vas voir que la vie, c'est un putain de puzzle parce que tu sais ce que je fais aujourd'hui.
Ouais.
Et tu sais pas, en fait. Genre, je crois au destin maintenant aujourd'hui. Enfin, okay. Encore plus qu'avant. Et du coup, je trouve une école de radio qui s'appelle le Studio École de France. Ça s'appelle ouais. Le Studec. Et à l'époque, t'as des mecs, qui, tu sais, genre, Omar et Fred qui étaient sortis, okay. Michael Youn, tu vois, c'était vraiment, en fait, 90% des gens qui bossent dans les médias ou qui réussissent sont sortis de cette école. Et moi, je suis pas conscient. C'est une école privée. Mmh. Une école privée à Paris. Et je me dis, bah, vas-y. Pourquoi pas? Et du coup, je vais, et tu vois, en plus, c'est une époque où, je crois, il y avait Sarkozy et il y avait un ministre qui s'appelait Azouz Begag.
Oui.
Et qui parlait d'égalité des chances.
Ouais.
Et moi, je lui ai écrit une lettre à Azouz Begag.
Ok.
J'ai dit, ouais, j'aimerais, j'ai envie de réaliser mon rêve, mais j'ai pas d'aide et tout. Enfin, moi, j'ai dit, ouais, l'égalité des chances, c'est un truc qui existe, tu vois. Et en fait, j'ai reçu une réponse du ministère qui me dit de me rapprocher de la préfecture. Bon, bah, je suis pas un sans-papier, mais tiens. Bon, et non, et donc du coup, je me suis dit, donc je vais voir le directeur de l'école qui s'appelle Silviano Marchion. Je l'appelle Tonton Marchion.
Okay.
C'est vraiment un mec bien. Et lui, je vais et je dors. Je me souviens, je vais dormir. Je prends un aller simple pour aller à Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que l'appartement que je m'étais payé, c'est mon meilleur pote qui est aussi le parrain de mon fils, qui est incroyable. Et c'était mon voisin à l'époque. Et lui, il m'a dit, tu sais, moi, je suis mon école d'ingénieur. Et c'est là où on va parler du réseau et de
ouais.
De l'importance de se faire des amis. C'est le premier réseau que tu te fais. Et du coup, lui m'a dit, bah, tu sais, moi, j'ai ma chambre chez ma mère. Elle est dans le 11e. Je te laisse ma chambre. Moi, je suis dans mon école d'ingé. Mmh. Va faire ton école. Et du coup, il y a sa mère qui m'a hébergé. Donc, de façon symbolique, tu vois, genre, je paye un loyer de 250 ouais. euros par mois pour louer la chambre.
OK.
Mais nourri, logé, blanchi, tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment, c'est une deuxième maman. Martine, elle s'appelle. Et du coup, trop gentil. Et là, je vais à Paris, je débarque. Et je vais à cette école. L'objectif, c'était de s'inscrire. Et en fait, pour s'inscrire, c'est une école, à l'époque, c'était... aujourd'hui, je crois que c'est 13 000, je sais plus le prix. En tout cas, à l'époque, c'était 7 500 euros.
Okay.
Donc, c'était un budget.
Ouais.
Un putain de budget. Et donc, je vais à cette école. Donc, je me reprends. En fait, c'est à ce moment-là où je découvre que je suis pauvre. Parce que tu veux faire un prêt pour payer une école, une formation, un machin. T'as une maman qui a 70 ans, qui est quasi à la retraite. Et du coup, là, tu te dis, mais merde, personne ne veut me prêter. T'as pas de caution. Comment tu fais? Et donc, du coup, je harcèle Tonton Martian. Je le harcèle. Je l'appelle, j'envoie des mails et tout. Et un soir, je dors devant l'école. Enfin, j'y vais. Dès 5h du matin, je l'intercepte et je supplie de me prendre. J'ai dit, c'est là où je veux être.
OK.
En parallèle, j'avais déjà trouvé le boulot McDo à côté de l'école. Et donc, du coup, il me dit, bon, bah vas-y... je suis OK pour faire une entorse à ma politique.
Ouais.
Tu me payes au moins. On fait un deal.
Parce qu'à la base, c'était cash qu'il fallait payer.
Ouais, ouais, il fallait vraiment payer cash.
Ah
fallait,
oui.
Ouais.
D'accord.
Et du coup, tu me payes tous les mois. je crois que c'était 550 ou 600 euros qu'il fallait sortir.
Ok.
Le jour où tu ne me payes pas, tu dégages, je te mets un gros coup de pied au cul.
Ah ouais.
Et j'entends plus parler de toi. Et du coup, j'ai tenu mon deal pendant 2 ans. C'est une formation en 2 ans.
Ça veut dire que tu dormais pas alors? Parce qu'entre l'école, entre ouais. Le taf.
Alors le McDo, ça a pas duré longtemps. Parce que, en fait, je suis allé au culot. McDo, ça a duré 2 semaines. Je vois, t'es chassé à l'école et tout. Et puis là, il se passe un truc. Moi, je voulais être à Radio FG, tu vois.
Ouais.
Parce que c'était la radio des DJ à l'époque. Ouais, ouais. DJ Radio, il y avait David Guetta, Bob Sinclair, etc. Et voilà. Et donc, du coup, tu vois, quand tu restes dans les couloirs de l'école, tu laisses traîner les oreilles et t'entends les opportunités qui sont pas écrites nulle part.
Ouais.
Tu sais, celles auxquelles on parle.
Ouais.
Et là, je bypass le truc. J'entends parler de cette opportunité. On chercherait un réalisateur pour les émissions du nuit du week-end, pour réaliser le club FG Week-end. Et je dis, bon, ça, c'est pour moi. Et je trouve le mail de Greg Dimano, qui était à l'époque directeur d'antenne. Je lui écris, écoute, moi, c'est ma culture. J'adore la musique. Je veux, le rêve de ma vie, c'est de bosser à FG. Et je suis dispo tout de suite. Et genre, j'ai écrit ça comme ça, tu vois. Et voilà, je sais que tu cherches pour le week-end. Voilà, je veux venir.
Ok.
Et le mec m'appelle. Je vais à mon McDo. Je reçois un appel, parce que je laisse mon numéro. Et il me dit, ouais, Mohamed, j'ai reçu ton mail, mais jour même. Et j'ai reçu ton mail. Est-ce que t'es libre pour venir à la radio ce soir? Et là, tu sais, j'ai 2 chemins, tu vois.
En face de toi, il y a le McDo.
Alors, en face de moi, il y a le McDo. Et derrière moi, il y a la ligne 9. Parce que c'était le McDo porte de Saint-Cloud. Mmh. qui est le deuxième McDo le plus grand de France. Et le mec, je dis, OK, j'arrive. J'arrive et il me dit, bon, bah, écoute, c'est, je crois que c'est l'entretien le plus rapide de ma vie, je crois que c'est aussi rapide que... Il me dit, bon, écoute, Mohamed, trop cool, ton mail, c'était direct et tout, moi, j'aime bien. Et je vais te... Moi, je cherche quelqu'un qui soit opérationnel très vite pour les nuits du week-end. Tu seras formé demain avec Nico, tu vois. Enfin, demain, la semaine d'après avec Nico. Ouais. Est-ce que ça te dit, est-ce que t'es chaud? Et je dis oui. Et le mec se lève et me dit, bah, bienvenue à la radio.
Ouais, vraiment rapide.
Voilà, bienvenue à la maison, quoi. Et voilà, Marbabik Mohamed. c'est vraiment ça, quoi. Ça s'est passé comme ça, quoi. Je sais pas, tu vois, genre, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris d'écrire un mail comme ça? En fait, il a fallu tout un concours de circonstances pour que je réalise un des rêves de ma vie, quoi.
Mais tu te dis pas aussi dans ta tête, est-ce que c'est parce que c'est Paris? Ou est-ce que c'est parce que vraiment c'est un concours de circonstances?
Mais moi, je suis nobody. Moi, je suis un mec de la cité.
Ouais.
Je viens avec des fils à papa qui ont les moyens de se faire financer des écoles. De toute façon, à l'école, il y avait quoi? Comme type d'école, il y avait sub de pub. Et voilà, en fait, c'est aussi les cancres qui veulent devenir artistes, tu vois. Donc, il y en a qui ont très bien réussi, mais ouais. 90% des gens... Et voilà, cette période-là, j'ai rencontré plein de gens aussi cool, tu vois, qui sont restés encore des amis. Il y en a un qui est parti, qui s'est jeté du 25e étage la semaine dernière.
Sérieux?
Ouais, mec, Polo. Et lui, c'était un mec adorable, doué. Il avait une voix incroyable. Et pareil, tu vois, genre, si t'as pas les cadres sociaux, tu rentres pas. Et du coup, j'ai compris en fait que tu vois, il y a des jeux auxquels tu peux pas jouer parce que on te laissera, faut être d'accord avec les règles, tu vois. Ce qui se passe, je suis à Radio FG, donc je fais pas mal de temps les nuits du week-end et ça me permet de financer comme c'est un stage rémunéré, et à l'époque c'était chaud d'avoir des stages rémunérés.
Okay.
Et les boîtes, elles étaient pas obligées de te rémunérer.
Ouais.
Et donc, du coup, je faisais les nuits du week-end, et après, en semaine, je me débrouillais pour faire d'autres trucs, quoi.
Okay.
Et je cumulais jusqu'à 3 stages en deuxième année. Plus, en fait, je faisais l'ouverture de l'école pour réduire les tarifs. Là, en deuxième année, en fait, je venais faire l'ouverture de l'école à 5-6 heures du matin pour lancer les bécanes et les web radios et préparer. Et en fait, tu vois, aussi, même des fois, j'étais avec un mec qui s'appelait Paul-Marie qui faisait ça. Et on faisait ça tous les deux. Et on soudait les câbles quand il y avait des trucs, des consoles qui cassaient, des trucs comme ça. Donc, on faisait de la soudure. Hein, tu vois.
Mais en fait, tu dormais pas.
Je dormais pas. Je bossais 80 heures par semaine. Donc, il y avait les cours. Il y avait les cours théoriques. Il y avait la pratique. Donc, j'ai pas loupé un seul cours. J'ai pas loupé une seule matinée. Alors que les autres avaient déjà été pistonnés pour rentrer dans les radios et tout. Ils ne venaient plus en cours et ils venaient juste faire leur truc.
Et c'est quoi qui te maintient comme ça? Parce que faire ça pendant, t'as fait ça pendant 2 ans?
2 ans, ouais.
Donc, en bossant 80 heures par semaine, qu'est-ce qui te maintient?
La rage. En fait, beaucoup de rage. En fait, c'est un truc. Alors, aujourd'hui, je suis un peu plus apaisé, tu vois. Si tu me poses la question, comment va ton cœur aujourd'hui? Il est apaisé. Ouais. Parce que t'as pas vu mon cœur à cette période-là. À l'époque, j'avais la rage. Tu vois, je sais pas si c'est, tu vois, genre, la rage comme dans une chanson de Sniper, tu vois. Tu vois?
Ouais.
Gravé dans la roche, tu vois. Rachid System, tu vois. C'était vraiment ça que j'ai, les sons que j'écoutais, tu vois. Et du coup, on lâche rien, tu vois. Il y avait des très bons sons à l'époque. Les Princes de la Ville. et Majid Sharfi. J'aimais bien Majid Sharfi. Ça m'apaisait. Et, donc du coup, ouais, donc ce qui me tient, c'est la rage, la détermination de réussir. Et en deuxième année, voilà. Et donc, je cumule les nuits du week-end. Je réalise aussi, des émissions de la semaine, la Before FG, où j'ai appris ce métier à la dure. Et parce que c'était vraiment du direct, et en fait, t'as pas, c'est vraiment un truc le direct,
ouais.
Quand tu réalises une émission en direct, parce que quand t'es réalisateur, t'es un peu l'ingé son. Donc t'ouvres les micros, t'envoies les sons et tout, tu récupères les appels pour passer à l'antenne. En fait, t'es un peu comme un poulpe, tu vois, t'as 10 bains. T'as l'oreille sur l'antenne et du coup en fait du coup maintenant à force de faire la radio enfin je sais quand j'écoute la radio je sais exactement ce qui se passe dans le studio les trucs que tu vois pas parce que j'entends j'arrive à entendre plein de trucs dans la voix et du coup voilà donc c'était une période incroyable et sauf que c'est une période où je ne pouvais pas manger à ma faim quoi la deuxième année. Parce que à un moment, tu vois, j'ai dû partir de chez Martine parce que tu vois, c'était vraiment temporaire, tu vois. Il faut pas. À un moment, tu sens que t'es le bienvenu et il y a des moments où tu sais que bah en fait, faut partir.
Ouais.
Et donc j'ai trouvé une coloc, enfin une sous-location. Je te raconte même pas à Villejuif. Et ça, tu vas voir, c'est une histoire de fou. Parce que je me retrouve à Villejuif. Et dans mon histoire, qui reprend, tu vois, je reviens à Villejuif. Je sais, ce podcast, c'est n'importe quoi, hein. Les gens, ils vont,
On va le faire en deux parties.
On va le faire en deux parties. OK. Et donc, il y a cette histoire-là. Donc, je me retrouve à Villejuif avec aussi une nana qui va devenir ma meilleure amie, qui est aussi la sœur d'un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Et donc voilà, donc on se retrouve dans cette super coloc et je me retrouve je crois que j'ai passé les je à l'époque je bosse pour Radio FG toujours pour Radio Podcast qui a été monté par Thomas Plessis. C'est le premier entrepreneur que je connais et le mec que je regrette de ne pas avoir suivi. Je pense que si je l'avais suivi, je ferais des trucs de ouf aujourd'hui.
OK.
Et je bosse pour MTV. Ouais. Et donc je trouve pareil sur les grilles d'été et un truc. Enfin c'était 6 mois de stage avec un CDI à la clé, tu vois. Et je me retrouve chez MTV à faire les top 100. À l'époque il y avait les top 100, top 100 clips.
Ouais.
Toute la semaine, tu vois, t'as des clips tous les jours et sur des thématiques. Et t'as une thématique par semaine. Bling bling, Corée, bagnole, etc. Et moi, j'avais grandi avec Internet, mais ça faisait longtemps. Et c'était les tout débuts de YouTube, là. Et personne n'avait cette information-là.
Ouais.
Et du coup, moi, j'avais une culture de clips. Laisse tomber, quoi. parce que tous les clips musicaux, ils étaient sur YouTube. Et du coup, je faisais des super trucs. J'organisais aussi des réunions de visionnage. Et donc, tu vois les dessous. Et après, tu récupères les contrats aux majors pour pouvoir diffuser les clips. Mmh. Ou alors, tu demandes des restrictions de revoir les clips parce que MTV s'est diffusé depuis l'Angleterre. Et en Angleterre, c'est pas la même politique. Tu vois, faut pas de trucs qui flash, faut flouter les marques. Enfin, il y a plein de de trucs que tu de retour que tu renvoies aussi. Et donc tu bosses avec l'équipe marketing, etc. Et là, je me retrouve avec un mec, c'est un fils à papa. Le mec, il regarde tout le monde bosser. Il est là dans l'open space, les mains derrière la tête, allongé sur sa chaise. Déjà, l'open space à l'époque, c'était une révolution. Genre, c'est mes premiers tickets resto. Genre, je me dis, mais c'est quoi cette boîte, quoi? Quand tu bosses dans une boîte américaine, c'est un délire. Le mec venait de chez MCM, je me souviens plus de son nom, et il faisait trimmer une nana qui s'appelait Charlotte. Et nous. Et à un moment, il vient, moi, il me pose un gros paquet sur la table. Bam! Il me met un carton, il me dit, tu sais, ça, c'est les invitations pour les MTV Music Awards. Faut que t'envoies ça aux majors. Je fais, t'es sérieux? Attends, je m'occupe des rayons de visionnage. Je fais les top 100. J'avais récupéré pendant l'été MTV Base. Et tu vois, et j'ai aidé Charlotte, tu vois. Et, ouais. Mais genre, j'en ai grave du taf. Et le mec est là. Voilà.
T'es la secrétaire, quoi.
Ouais, je suis la secrétaire. Je fais, mais mec, c'est pas moi, c'est pas mon taf. Je fais pas ça. Et il me dit, non, mais tu sais quoi, si c'est pas ton taf, bah, tu reviens pas demain. Je fais, d'accord.
Et t'es parti.
Basta. Et en vrai, voilà, fierté d'Algérien.
Ah, bah oui, encore une fois, encore une fois.
Mais on m'a, non, mais même, tu vois, on m'avait même proposé un poste de réalisateur à Europe 1.
Ouais.
On était deux mecs, et un mec qui était exceptionnellement fort, Jérémy, et y avait moi, on était deux super réals dans de la promo. Et on est venu me voir pour un poste de réal à Europe 1. Et à Europe 1, j'ai dit non mais écoute, Europe 1 c'est Lagardère. Lagardère c'est une boîte qui fabrique des armes. Écoute, moi je tiens à mon karma, donc j'irai pas bosser pour un mec qui... Ouais. Tu sais, j'étais déjà militant, tu vois, genre...
Engagé, militant...
En vrai, si j'étais parti chez Europe 1, si j'étais parti chez Lagardère, bon bah ça, j'aurais pas les mêmes problèmes aujourd'hui, tu vois. mais du coup, voilà, donc je me retrouve à Paris... Et je découvre le monde du travail, mais je pensais que c'était que lié à la radio, tu vois, et avec une vraie perte de sens. C'est-à-dire que toi, t'es super doué techniquement, mais ça fit pas avec les soft skills que t'as, enfin, au niveau relationnel, parce que les gens, ils ont pas le même milieu. Mmh. Alors, tu vois, des fois, j'en ai un mec avec qui j'étais en stage, le mec, c'est Léo Lanvin, le fils de Gérard Lanvin, et des fois, bon, bah, il me dit, ouais, écoute, je suis à Marrakech, je prends l'avion, j'embarque, mais je serai à la bourre aujourd'hui. Est-ce que tu peux me tenir la réale? Je fais, bah ouais, si tu veux.
Génial. mais en toi, tu t'es en plein kiff ou c'est normal?
Non, moi, je suis content. Tu sais, j'avais commencé à 22h la veille. Le mec est censé arriver à 6h du mat. Je vais terminer à midi, quoi. Ouais. Tu vois. <c'est... rire> Mais après, tu vois, c'est bon, c'est pas grave. Écoute, les mecs étaient trop gentils. Après, à midi, ils venaient, ils me ramenaient un gros domac, on mangeait bien. Et moi, ça me payait un repas.
Ouais.
Et donc, je disais, à l'époque, ouais, c'était vraiment très dur parce que pendant 3 mois, je n'ai mangé qu'un seul repas. C'était, j'achetais 500 grammes de surimi, un pot de mayo et je ramenais des demi-baguettes pour manger mes repas. Alors, les seuls vrais repas que je les faisais au Resto U. Et ça. Et le truc qui était dur, c'était vraiment ce moment-là. En fait, j'ai eu deux chocs. C'est à ce moment-là où j'ai arrêté de faire le ramadan, clairement. Un jour, je me suis... Oui, et de manger halal hein, aussi, hein, tu vois, clairement.
Parce que là, t'étais vraiment dans un...
J'étais tout seul. En fait, j'étais tout seul. En fait, déjà, pour l'histoire du ramadan, en fait, mon seul vrai kiff, c'est quoi? Quand je touchais ma thune à la fin du mois, je m'offrais un kebab à Châtelet.
Okay.
Ça, voilà, tu vois, il y avait ça. Et après, et donc un soir, tu sais, je fais ramadan et tout, je vais casser le jeûne, je le cache, c'est le dernier jour de ramadan, c'est McDo de Rivoli, tu vois. Je vais prendre un filo fish.
Ouais.
Et je dis, en fait, ça n'a aucun sens d'être tout seul, tu vois.
Ouais. C'est dur le ramadan tout seul, hein. Voilà. Là.
Et là, j'ai dit, ouais, bon, ben, j'ai pour moi, ce qui faisait du sens, c'était quand on était avec, tu vois, chacun mangeait un peu comme il voulait, tu vois, à la maison. Ouais, ouais. Mais pendant le Ramadan, c'était tous les repas, on était ensemble. Ouais. On était en mode rassemblé. Et en fait, c'est ça, en fait. Et quand t'as compris que ce qui compte, c'est de rassembler les gens, et pas vraiment le rituel, mais le lien que tu crées à ce moment-là, c'est ça le plus important. Et c'est ça qu'il faut maintenir tous les jours. Il faut pas le maintenir que 28 jours par an.
Ouais, bien sûr.
Tu vois. Et donc du coup, bah voilà. Et donc j'étais vraiment, bah, tu vois, j'avais vraiment juste ces petits kiffs là, de temps en temps, parce que j'avais pas de thunes. Et c'était dit, McDo pour moi c'était un resto de riches. Hein. et du coup et voilà, donc je me retrouve vraiment les trois derniers mois de galère. Entre le début et la fin de la formation, j'ai perdu énormément de poids. J'étais rentré à Toulouse, je crois, je faisais 56 kilos.
Ah ouais, quand même. Ah oui.
Tu vois. Pour 1m84.
Ouais. Ouais.
Donc du coup, ces deux années, elles ont été incroyables parce que j'étais dans des univers... en fait, c'est quand tu sors de la radio, tu claques la porte. Là, tu te retrouves dans la galère, tu vois. T'as faim, t'as pas trop à manger, tu fais attention... et t'es avec des gens qui vivent dans un truc sur l'Olympe.
Ouais, ils voient pas, ils arrivent pas à identifier ça, ils voient pas le truc. À aucun moment ils soupçonnent.
Mais non, ils soupçonnent pas. Et en plus, des fois, tu discutes avec eux et tu dis ouais, alors toi tu vis où ? Ben moi je vis à Montmartre dans un petit studio de 100 mètres carrés.
Ah ouais.
Un petit studio de 100 mètres carrés. Et en fait, tu vois, il est là, le gars. Ouais. Tu vois, quand le mec m'a dit, je vis dans un petit studio de 100 mètres carrés, je dis, mais en fait, on n'a pas les mêmes échelles de valeur. On n'a pas le même truc. Et là, du coup, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est, ça a toujours été rendre fiers les miens. Tout le monde était fier. Tout le monde. Et tout le monde m'a parlé de pourquoi t'as arrêté la radio, t'avais une bonne place, t'étais doué, etc. Et moi, j'ai un peu saboté le truc, tu vois. Mon rêve, moi, c'était de rentrer à Radio France, tu vois. Mais j'avais pas le bac. Je sortais d'une école qui recrutait et qui formait à ces métiers-là, qui te donnait un diplôme reconnu, mais pas le diplôme minimum. En fait, je vais à Radio France, je voulais rentrer, il y avait un poste à Toulouse. Et du coup, j'avais plus trop de sous. Et je quitte Radio Podcast à contre-cœur parce que. Bah moi, j'avais plus pas de moyens, quoi. Mmh. Et je décide de revenir à Toulouse. Mais revenir à Toulouse, ça veut dire sortir de Paris et sortir d'un écosystème.
Ouais.
Alors que.
Que tout se passe à Paris, tout simplement.
Alors que tout se passe à Paris. Et exactement, c'est exactement ça. Et donc, je m'en vais et je suis à Toulouse et je passe deux entretiens. Un à Sud Radio pour réaliser le morning. Et en fait, je découvre que Sud Radio, c'est une radio de facho.
Okay.
Et on me le dit, écoute, enfin, c'est le directeur d'antenne, Jérôme Delavaux, qui m'a fait comprendre que sa direction n'acceptait pas mon profil.
Ok.
Pourtant, j'avais fait des essais et tout, c'était concluant.
Ok. T'avais l'expérience, t'avais fait les essais.
Ouais, ouais.
Ok.
Et après, il y avait la même chose, réaliser l'émission du soir des filles, il y avait une libre antenne sur le Move. À l'époque, et du coup, j'avais passé tous les entretiens et tout, et ça devait se faire, je devais être réel là-bas. Et au moment d'envoyer mon dossier à la RH, à Radio France, on me dit, écoute, la radio, c'est pas pour les gens comme toi.
Ouh.
Non, parce que j'ai pas le bac. Non, mais je fais un running gag. Mais en fait, voilà, on m'a dit, écoute, à Radio France, en fait, t'as pas besoin de what mean diplôme. Le diplôme minimum requis, c'est le bac.
Ok, donc tout ce que t'as fait avant, en vrai, ça sert à rien, malgré l'expérience et tout.
Voilà. Et du coup, là, j'ai mon excuse. Je dis à tout le monde, écoutez, moi, je veux faire de la radio. En fait, j'avais découvert, pour moi, c'était un peu la Star Academy à l'époque. Tu vois, les gens, c'est les égos. C'était pas sain pour moi parce que c'était prétentieux, m'as-tu vu, superficiel, pas vrai, pas direct. Et c'était pas mes valeurs, en fait.
Okay.
Mais en fait, le truc, j'ai découvert que tous les milieux professionnels étaient comme
bien
ça.
Sûr.
Et c'est juste le premier auquel j'étais confronté. Et quand je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis dit, mais c'est la même chose.
Ouais.
C'est pareil. Et du coup, voilà, je me retrouve dans cette situation où je dis, allez, je vais passer le bac parce que visiblement, c'est ce qu'il faut. Et en fait, j'avais décidé que j'allais faire médecine.
C'est tout pour le moment. Partie 1 terminée, mais on revient très très vite pour la deuxième partie. D'ici là, une petite note, un commentaire, un max de partage. Merci pour la force.